Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul, je vais parler aujourd'hui de la parole de Dieu. C'est ce qu'on fait chaque dimanche et aujourd'hui on continue dans l'écoute d'un livre dans la Bible qui s'appelle le livre des Actes. Jésus est au centre de ce que nous faisons ce matin. Ce n'est pas la fête de Sam aujourd'hui, nous aimons Sam, on est très heureux de voir Sam être baptisé. Ça fait une longue attente en fait parce qu'il a attendu pendant tout le temps du confinement pour être baptisé. Finalement, on avait une date l'année passée en automne, et puis reconfinement. Mais voilà, finalement, aujourd'hui, ça aboutit. Mais ce n'est pas la fête de Sam, et ce n'est pas la fête de la famille de Sam, même si on est dans la joie avec vous aussi. Ce n'est même pas la fête de l'Église. C'est la fête du Sauveur, Jésus, qui est notre roi. Et c'est lui que nous célébrons ce matin, comme nous l'avons déjà fait dans le chant. Jésus a dit beaucoup de choses, et des choses qui nous interpellent. Et voici une des grandes déclarations de Jésus. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. En fait, on comprend à travers cela qu'il n'y a pas deux façons d'être disciple. Une façon où on est vraiment en train de tout donner à Dieu et une autre façon d'être disciple où en fait on ne lui donne rien. Où on ne lui donne que la moitié de notre vie. Il y a une seule manière d'être, si on veut être chrétien, c'est tout donner. Je sais que Sam et quelques-uns des autres sont néerlandophones, et en néerlandais, il y a une phrase que j'entendais souvent quand je montais sur le terrain avec mon équipe sportive, et on disait « alles geven, alles geven ». Ça veut dire tout donner sur le terrain, tout donner pour qu'on gagne ensemble. Et c'est ainsi aussi le mot d'ordre quand on est chrétien. Alles geben, tout donner pour Christ. C'est ce qu'il veut. Personnellement, il faut être épaté par Jésus, frappé par son autorité, au point où on lui dit « il mérite tout, je dois tout lui donner ». Mais aussi tellement frappé par son amour qu'on se dise « j'ai envie de tout lui donner, je veux tout lui donner, parce qu'il m'aime à un tel point ». On ne peut pas avoir Jésus et tout le reste aussi. Il va falloir faire un choix dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut Jésus? Jésus seul? Jésus par-dessus tout? Ou est-ce qu'on veut tout le reste aussi? Quand on entre vraiment en accord avec Jésus, il veut tout. Je ne peux pas garder des domaines dans ma vie où je suis égoïste. Et moi, c'était quand j'étais ado que je me suis rendu compte de cela. Je suis parti avec notre groupe de jeunes et j'ai entendu des messages et je me suis rendu compte, Paul, tu as déjà donné ta vie au Seigneur, il veut toute ta vie. Pas juste les domaines que tu ne veux pas, auxquels tu ne t'intéresses pas. Et je le dis aujourd'hui parce que certaines personnes ont pensé, un peu peut-être comme Sam quand il était plus jeune, qu'on pouvait avoir les avantages du christianisme sans la difficulté. Il y a certaines choses qui sont faites par les chrétiens qui sont assez faciles à faire. On peut venir à l'église de temps en temps. Ben, pourquoi pas, on ne fait rien d'autre le dimanche matin, peut-être. On peut lire la Bible. Ben oui, parce que de toute façon, on doit lire quelque chose. Pourquoi pas lire la Bible? Même être baptisé, ce n'est pas si difficile que ça, il faut juste être mouillé. On peut faire ces choses et finalement, ça peut nous donner l'impression que ça va bien. Mais Dieu connaît nos cœurs. Et parfois, c'est longtemps après qu'on se rend compte. Quand il y a un conflit d'intérêts entre la personne et ce que le Seigneur veut, que c'est le désir égoïste qui l'emporte. Il était chrétien en apparence. Merci Sam pour ton honnêteté. Beaucoup de gens sont chrétiens en apparence. Et nous allons découvrir aujourd'hui un couple dans la Bible qui a pensé qu'il pouvait tromper les autres et qui allait arriver à tromper les autres parce qu'ils avaient l'air admirable, ils avaient l'air charitable. Et ainsi, il pensait qu'il pouvait être accepté. Alors, il y a longtemps, dans la Bible, il y a un homme qui a voulu garder de l'or pour lui. Il s'appelait Achan, à l'époque de Josué. Il a été puni pour cela. Et même avant lui, il y a eu un couple qui ont décidé de désobéir à Dieu. Ils ont décidé ensemble de désobéir à Dieu. Et nous en voyons encore les conséquences aujourd'hui. Mais le couple dont nous allons parler se trouve dans le livre des Actes, et ça se passe au 1er siècle, donc la même année où Jésus est mort à la croix à Jérusalem, et l'Église commence à se former. Je vais lire en Actes 5, les versets 1 à 16, et si vous avez une Bible blanche de notre Église, c'est la page 710. à page 710, acte 5, à partir du début du chapitre. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix, en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui y était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par l'intermédiaire des apôtres, ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer dans des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre, au moins, couvre l'un d'eux. Une foule de gens accouraient aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Quel est le problème ici lorsque nous lisons ce passage ? Des choses qui nous choquent, n'est-ce pas ? Un couple, ils viennent à l'église et ils repartent les pieds devant, tous les deux tués ce jour-là, violemment. Alors je signale que ce ne sont pas les chrétiens qui les ont tués, ce n'est pas Pierre et les apôtres, ni personne d'autre de l'Église qui les a mis à mort, mais ils sont morts quand même. Est-ce que le problème c'est Dieu ? Est-ce qu'en lisant cela vous vous dites, mais en fait Dieu est beaucoup trop sévère de mettre ce couple à mort ? On a peur d'un Dieu comme ça, n'est-ce pas ? Et c'était aussi la réaction qu'ils ont eue à l'époque, au verset 5, on lit qu'une grande crainte s'empara d'eux. Ceux qui apprirent cette nouvelle. Et c'est répété encore au verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'Église, de tous ceux qui apprirent ces événements. Vous avez entendu ce qui s'est passé à l'Église de Jérusalem ? Il y a un couple qui est mort là, venant simplement à l'Église avec un don pour l'Église, et ils sont morts. Mais le problème n'est pas Dieu. Faire le mal a comme conséquence la mort. Désobéir au Dieu de la vie nous met sur le chemin qui mène à la mort. Dans la Bible, le péché est un problème sérieux, quel qu'il soit. Et nous oublions en fait que le mal doit être puni. Bien sûr, cela se passe très rarement. J'essaie de penser à ma vie, je ne pense pas avoir vu cela, d'avoir eu cette expérience de voir quelqu'un qui est mort à cause de ses péchés. Dans la Bible aussi, c'est assez rare. Mais parce que c'est rare, on oublie à quel point le problème est sérieux. Il y a des conséquences à notre péché. Le problème n'est pas Dieu. Mais vous pourriez penser que le problème, c'est le capitalisme, le fait qu'ils avaient de la richesse, ils avaient un capital, avoir une propriété privée. Mais non, au verset 4, Pierre dit ceci, « S'il n'avait pas été vendu, le champ que tu avais, ne te restait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? » C'est-à-dire, tu n'étais pas obligé de vendre ton champ, c'était à toi. Et une fois que tu l'avais vendu, tu pouvais faire ce que tu voulais avec ce champ. Tu ne devais pas nécessairement tout donner à l'Église. Personne ne leur avait dit qu'il fallait vendre leur propriété et que s'ils le vendaient, ils devaient être aussi généreux que les plus généreux des donateurs. Alors, il y a quelque chose qui semble un peu surprenant là. Parce que j'ai dit au début que nous devons tout donner à Dieu. Et ici, il est en train de dire, en fait, on peut garder des choses comme notre propriété personnelle. Comment ça marche, ça ? Comment c'est possible ? Est-ce que je dois tout donner et n'avoir rien ? Ou est-ce que je peux tout garder et avoir des choses légitimement qui sont à moi? Et la réponse, c'est que lorsque nous donnons tout à Dieu, il nous demande de gérer certaines choses. Nous lui accordons les droits sur tout ce que nous possédons, et pourtant ce sont nous, dans la grâce de Dieu, dans sa bonté, qui devons gérer ces choses. Un exemple, c'est qu'il y a dans la rue une Ford qui appartient au Seigneur. Moi j'ai les clés, moi je paye les factures, moi je paye l'assurance. Mais ça appartient au Seigneur. Et si je conçois cela, toute ma vie comme cela, alors je vais vivre différemment, je vais vivre de manière plus généreuse. Parce que je me rendrai compte que tout ce qui m'appartient, appartient à Dieu, parce que je lui cède les droits sur ce qui était à moi. La Bible dit aussi dans cette phrase très interpellante dans une lettre, « Ceux qui achètent doivent vivre comme s'ils ne possédaient pas. » Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, comme si ce n'était pas une possession éternelle, mais une possession temporaire que nous devons gérer pour Dieu. Sam, tu te destines à être un travailleur et à devenir riche. Eh bien, bon courage avec ça. Mais sache que la richesse apporte son lot de tentations et même de pièges. Qu'il faut avoir décidé avant de devenir riche, quelles vont être tes priorités. Ça ne peut pas être moi, 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 et puis après je pense au Seigneur. Je dois dire le Seigneur d'abord. Et puis tout ce que je fais, tout ce qu'il me donne d'accomplir ou d'acquérir, je me souviendrai de lui et je lui donnerai. Le problème ici, en fait, n'est pas le capitalisme, le problème n'est pas Dieu, le problème c'est le mensonge. Faire semblant, exagérer, faire bonne figure. Ananias l'a fait et puis Saphira l'a fait. Il y a certainement eu une déclaration formelle qui n'est pas reprise dans notre texte. Mais soit il avait dit « Voici tout ce que j'ai reçu de ma vente » quand il a apporté cela. Ou alors, en fait, avant cela, il leur avait promis « Quand j'aurai vendu mon champ, moi aussi je vais tout apporter et je vais tout vous donner. » D'accord ? Il a fait cette promesse et puis ils ont vendu le champ. Ils ont dit « Oh, en fait, ça rapporte beaucoup, c'est beaucoup d'argent. On ne va pas quand même donner tout à l'Église. On va donner une part. Le reste, on garde pour nous. C'est bon ? Ok, c'est bon. » Ils se sont mis d'accord. Et donc, c'est là le mensonge qui est entré. Il avait fait une promesse, mais avec sa femme, avec son accord, ils ont changé le plan. En fait, c'est plus clair lorsqu'on lit ce que la femme dit au verset 8. Tous les deux sont tout à fait coupables. Il n'y a pas de différence entre monsieur et madame ici. Mais Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu le champ ?»« Oui, elle dit, c'est à ce prix-là. » Mais ce n'était pas à ce prix-là. Et Pierre a su probablement par une intuition spirituelle qu'elle avait dit quelque chose de faux. Elle jouait le même jeu que son mari. Est-ce que mentir est vraiment un si grand problème? Est-ce que ça ne vous choque pas de trouver que quelqu'un ment à l'église et puis il meurt? Et puis qu'elle ment et elle meurt? En fait, dans le livre des Actes, il y a 28 chapitres et il n'y a que deux fois où quelqu'un meurt à cause de son péché. C'est ici, et puis au chapitre 12, un autre homme va mourir à cause de l'orgueil. Le mensonge et l'orgueil. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'on ne pense pas que ces choses-là sont tellement graves. On se dit, on est tous un peu orgueilleux, on est tous un peu menteurs, on fait tous bonne figure. Mais Dieu considère cela comme grave. Et ça nous rappelle l'échelle de valeur de Dieu, les valeurs de Dieu, ce qu'il considère comme bon ou mal. Tout à fait différent de ce que nous pensons. Le mécanisme ici est le mensonge, mais Dieu savait que ce qu'il y avait dans leur cœur et que ça allait influencer l'Église. Toute l'Église allait être teintée d'hypocrisie parce qu'on allait dire « Ah oui, ils disent qu'ils font cela, mais ils ne font pas. Oh, j'ai appris qu'ils sont très généreux, mais en fait, je sais bien qu'ils se sont enrichis. » Ils disent une chose, ils pratiquent une autre. Et en fait, les Églises doivent toujours faire face à des défis, même aujourd'hui. On a vu que l'Église à Jérusalem avait été sous pression, il y avait de l'opposition contre eux, en disant « Vous ne devez plus parler au nom de Jésus ». Mais ils ont prié, ils ont repris courage, et ils ont pu résister à l'opposition. Mais ici, c'est une autre épreuve. C'est une épreuve qui vient de l'intérieur, risque de division, de compromis intérieur. Et ça nous montre, mes amis, si vous êtes chrétien, si vous êtes membre de l'Église, qu'on fait face à différents défis, n'est-ce pas ? Et parfois, des églises sont fortes pour un domaine, dans un domaine, mais sont faibles dans un autre domaine. Ici, Dieu va intervenir pour éviter que l'Église soit atteinte par l'hypocrisie. Et il nous montre en fait que quand il y a de l'argent en jeu, on voit très clairement la motivation des gens. L'argent révèle la motivation des gens. Vous vous souvenez de Judas ? Il a vendu Christ et il a acheté un champ. Barnabas, au chapitre 4, versets 36 et 37, a vendu un champ et a servi Christ. Ça révèle, n'est-ce pas, ce qu'il y a dans notre cœur lorsqu'on considère nos dépenses. Et les apôtres qui allaient recevoir cet argent n'allaient pas devenir riches. En fait, on découvre un peu plus loin qu'ils prenaient l'argent qu'ils avaient pour aider les plus faibles dans la communauté. Les gens qui étaient seuls, les gens qui étaient pauvres, les gens qui n'avaient pas de revenus. Ce n'était pas pour leur enrichissement personnel qu'ils recevaient de l'argent. L'argent en dit long sur notre cœur. Et le mensonge est quelque chose qui n'appartient pas dans la vie du chrétien. Nous devons veiller sur cela, parce qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de la vérité et du mensonge. En voici quelques-uns. Jean, l'apôtre, dira ceci: « Vous connaissez la vérité, et aucun mensonge ne provient de la vérité. » Jésus a dit: « Le diable est menteur et le père du mensonge. » Et Paul, un autre disciple de Jésus, écrit: « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » En fait, Ananias n'était peut-être pas croyant. Il n'est pas décrit comme un croyant ici, simplement comme un homme. Mais il ne se comporte pas comme un chrétien, ça c'est clair. Parce que le christianisme est incompatible avec le mensonge. Le mensonge est une offense à Dieu. Vous voyez au verset 3, c'est le Saint-Esprit à qui il a menti. Et encore au verset 4, tu as menti à Dieu. C'est là l'offense. Et la conséquence est la condamnation, le résultat de l'hypocrisie. Dieu ne voulait pas que l'Église soit corrompue par l'amour de l'argent, ni par la malhonnêteté. Et donc, si nous enseignons des choses, nous devons veiller à les mettre en pratique nous-mêmes. Nous ne devons pas être ceux qui donnent des leçons aux autres et qui ne pratiquons pas notre foi. Parce que si nous disons quelque chose, ça doit être vrai, n'est-ce pas ? Je veux vous dire que c'est une bonne chose que Dieu est rigoureux. Si vous avez critiqué l'Église pour son hypocrisie, si vous avez regardé un film ou une vidéo dans laquelle les chrétiens sont représentés comme des hypocrites, vous savez qu'il ne faut pas agir contrairement à l'Église, à la Bible. Il y a une certaine révolte par rapport à cela, n'est-ce pas ? Et vous avez raison. Jésus détestait l'hypocrisie. Mais cela veut dire qu'il pourrait punir chacun de nous. En tant que juge, il pourrait révéler des fautes chez tout le monde. Et donc, en ayant vu un exemple négatif, je vais vous donner un exemple positif. La voie chrétienne. Et pour cela, on va lire plus loin dans une lettre écrite à une église, et c'est la lettre aux Colossiens. Tournez un peu dans votre Bible à Colossiens, et je vais lire un extrait du chapitre 3. Chapitre 3, verset 9. « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. » Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà la nouvelle vie. Pas le mensonge, pas comme avant, mais la nouvelle vie dans la vérité. Ça fait plaisir, n'est-ce pas, de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et quand on les voit, on est frappé par ce qui a changé chez eux. Les ados ont grandi, par exemple. Mais ça se voit aussi par rapport au caractère de quelqu'un. On dit, tiens, avant tu étais comme ça, et maintenant tu n'es plus comme ça. Avant tu étais très impatient, très colérique, et maintenant tu es calme. C'est bien. On voit des changements. Et en fait, dans la vie chrétienne, on doit aussi voir des changements chez les chrétiens. des progrès. On se débarrasse de l'ancien homme, notre ancienne façon de vivre, et on se vêtit de notre nouvel homme, c'est-à-dire notre nouvelle nature qui s'exprime, qui est conforme de plus en plus à ce que Dieu veut pour nous. Et il dit aussi qu'il n'y a pas de première classe ou de deuxième classe. Il n'y a pas certaines personnes qui sont avantagées. Le verset 11 dit qu'on est tous les mêmes, quelle que soit notre nationalité ou notre statut social. Ce n'est pas cela qui est exclu. Tout ce qui compte, c'est Christ. Et la relation que nous avons avec Christ qui fait que nous sommes tous égaux, tous réunis en lui, dans la vérité. Et puis j'aime beaucoup cette description des chrétiens. Verset 12. Choisis, saint et bien-aimé. Choisis, il nous veut. Saint, nous sommes purs, il nous a purifiés. Bien-aimé, Dieu nous aime beaucoup. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on a du mal à croire que c'est vrai pour nous. On ne se sent pas nécessairement comme cela. On peut croire qu'on est accidentel, sale et méprisé. Qui suis-je, moi, pour recevoir le pardon de Dieu? Qui suis-je, moi, pour recevoir tant de bonté? Le salut, la vie éternelle, le pardon de tous mes péchés? Mais je suis sale. Je suis méprisé. Dieu m'aime peut-être un petit peu, mais il aime les autres. Non, non. Vous êtes, si vous êtes chrétien, choisi, saint et bien-aimé. Et alors, vous arrivez à pardonner les autres. Parce que vous avez reçu le pardon. D'abord, vous-même, le pardon de Dieu. Il y a quelques années, en 2016, j'ai reçu une lettre qui est venue du Madagascar. Et cette lettre n'était pas adressée à moi, ni au pasteur précédent, mais au pasteur avant cela. C'était une lettre toute nouvelle, écrite en 2016, mais qui concernait quelqu'un qui était là 20 ans auparavant. Et cette dame m'écrivait pour reconnaître une faute. À l'époque, donc 20 ans avant qu'elle écrivait cela, on envoyait des colis de vêtements aux pauvres. On distribuait aux pauvres ici. Et les gens ramenaient des vêtements et puis on les distribuait aux plus pauvres, aux plus nécessiteux. Et cette femme avait travaillé dans l'église à ce moment-là. Elle avait vu une robe qui lui plaisait et elle l'avait volée. Elle l'avait dérobée, on pourrait dire. Elle l'avait prise pour elle. Et son mari était entraîné aussi dedans. Il était au courant de ce qu'elle faisait. Mais personne d'autre ne l'a su. 20 ans plus tard, elle m'écrit une lettre pour dire « Je me sens terriblement coupable. » La culpabilité, ça peut traîner, n'est-ce pas, longtemps dans notre vie. Et je lui ai écrit. Je ne lui ai pas dit « Oh, c'est pas grave, c'est juste une robe. » Puis voilà, il y a 20 ans, personne d'autre ne l'a eu, tant pis. On comprend maintenant que le péché est grave, même un petit péché. Et c'est pour cela qu'elle avait cela sur la conscience. Je lui ai dit avec le conseil des anciens, « Chère madame, nous vous remercions pour votre lettre. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Veuillez recevoir l'expression de notre compassion à la suite de votre confession. Que le Seigneur vous pardonne par le sang de Jésus-Christ et qu'il vous accorde sa paix. » J'espère qu'elle aura pu se sentir pardonnée, enfin pure devant Dieu. Le pardon, c'est quelque chose de riche, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi est-ce que Ananias et Saphira n'ont pas été pardonnés, si Dieu pardonne? Eh bien, en fait, cette histoire de Actes 5 nous montre que ce n'est pas automatique. Le pardon, ce n'est pas comme la pluie. Vous savez, on est tous dehors, et puis la pluie tombe, et tout le monde est mouillé. Le pardon, c'est beaucoup plus délibéré que cela. Il faut aller demander pardon. C'est comme Sam, aujourd'hui, il a fait un acte délibéré pour être mouillé. Il est entré dans le baptistère. Et nous devons venir à Dieu pour lui demander pardon. Mais lorsque nous lui demandons, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je t'ai offensé, tu sais les secrets de mon cœur, tu sais les choses que j'ai faites qui sont mauvaises. Peut-être que personne d'autre ne le sait, mais je reconnais que je suis coupable devant toi. Et lorsque nous disons cela, Dieu est fidèle et juste, nous dit la Bible, pour nous pardonner. Et Jésus est mort afin que nous puissions être pardonnés par Dieu. Il y a des gens qui ont cru cela, mais pas tout le monde. Au verset 13, il y a même des personnes en acte 5 qui se sont éloignées de l'Église. Ils ne voulaient pas être mélangés avec ces gens-là. Alors ça nous pose question, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Est-ce qu'on est comme Ananias et Saphira, des hypocrites? Est-ce qu'on est comme des gens qui s'éloignent de l'Église pour dire, en fait, je ne préfère pas être dérangé? Ou est-ce que nous sommes sincères? Est-ce qu'un changement radical a eu lieu dans notre vie? Parce qu'on a dit, en fait, je veux changer. Je veux que tu me purifies. Je veux être pardonné de toutes mes fautes. Et je veux vivre une nouvelle vie avec toi. Que cette histoire nous réveille ce matin. Je veux juste conclure en disant quelques paroles à nous qui sommes rassemblés. Vous savez, il est possible de s'identifier comme chrétien et de ne pas l'être. C'est toujours dangereux quand on ne se rend pas compte. Alors je ne juge personne. Mais c'est Dieu qui connaît notre cœur. Mais ce que je sais, c'est que la foi low cost n'est pas la vraie foi. Et Dieu n'est pas dupe. Nous devons éviter l'hypocrisie. Là où on fait bonne figure, là où on semble être très motivé en tant que chrétien. Dieu n'est pas trompé par l'apparence de l'amour pour Dieu. Il voit lorsque nous avons vraiment de l'amour pour lui. Alors qu'est-ce qui vous conduit? L'amour de l'argent? L'amour de votre réputation? Ou l'amour de Christ? Et puis si vous êtes choqué par cette histoire, je dois vous dire que Dieu va juger le monde. Il a jugé deux personnes là à l'époque, mais il a fixé un jour où il va juger l'humanité tout entière. Chacun de nous doit apparaître devant son jugement. Il ne va pas toujours reporter cela au lendemain. Mais sachez que Dieu est un Dieu de justice et un Dieu de vérité et un Dieu qui aime les gens. Au verset 16, juste à la fin de notre lecture, il dit qu'une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem avec des malades et tous étaient guéris. Ce n'était pas l'ombre de Saint-Pierre qui faisait la différence lorsque Pierre passait dans les rues. C'était Dieu qui faisait une différence. C'était en fait une réponse à leur prière, parce qu'au chapitre précédent, chapitre 4, verset 30, ils avaient prié, « Seigneur, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons et des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. » Ça nous montre l'amour que Dieu a pour nous. Il veut notre bien. Il veut notre bien encore aujourd'hui. Il veut notre salut. Et donc nous avons tous à réagir individuellement. Et même si ça ne se verra pas extérieurement, le changement intérieur, c'est un changement complet, où Jésus envahit notre vie, et Jésus qui est vivant nous donne la vie, et il prend ce que nous avons, et il l'utilise pour sa gloire. Notre Père, nous voulons te prier que tu puisses agir en nous. Chasse de nous l'hypocrisie, cette envie de paraître plus que nous sommes. Nous prions que nous puissions être honnêtes les uns avec les autres, dire la vérité chacun à notre prochain. Mais aussi que nous puissions pardonner si Christ nous a pardonné. Que nous puissions sentir vraiment la grandeur de ce pardon qui est réel, profond, durable, pour que nous soyons toujours à toi. Et que ceux et celles qui n'ont pas encore fait ce pas puissent te rencontrer, te connaître intérieurement et voir leur vie transformée par toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Un dernier chant avec Patrick.
Merci Paul. Avant de chanter ensemble, je voudrais juste nous laisser ces quelques versets de la parole de Dieu. Nous sommes en Deutéronome, au chapitre 30. L'Éternel parle. Le commandement que je te prescris, et après nous chanterons au 519 dans J'aime l'Éternel. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Et puis je vais au verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Chantons, j'aime l'Éternel à l'agneau de Dieu.